Nathalie Elgrablie, salut!
Bonjour.
Bonjour, comment allez-vous?
Ça va bien vous-même?
Très bien. Il y a toujours des petits thèmes musicaux, vous allez vous y faire, vous allez voir.
Ouais, faut pas faire le saut.
On fait pas le saut. À chaque intervention, lorsque ce sont des personnes qu'on va entendre régulièrement de l'émission, c'est le cas de Fred Tétu, c'est le cas de d'autres, et ce sera votre cas à partir plus régulièrement de l'automne. Mais il y aura un petit thème musical avant. Ça va bien?
Oui, super.
Aimez-vous, comme vous dites, la soul music?
Je peux pas dire que ça vient en top of my list, mais disons okay. Que cette chanson en particulier, je l'aime bien.
Elle est bonne, hein? Des Dramatics. C'est une vieille tune dans le style Motown. Comment ça va?
Oui, ça va très bien, ici-bas, à Montréal.
OK. Considérant tout ce qui se passe avec les Bixi et tout ce qui se passe à la ville de Montréal. Ben...
Utilisez-vous le Bixi, Madame Elgrablie?
Jamais. Je l'avoue humblement, je suis fanatique
comme une honte.
De ma voiture, je pourrais pas me passer de mon auto.
Mais c'est comme une honte, hein? C'est, jamais, je l'avoue, c'est pas grave, ici ça passe très bien. Là.
Bon, tant mieux. Moi ce que j'attends, je le promets, on est en onde, hein,
oui.
Une promesse formelle, le jour où je verrai le maire trembler, aller à son travail le matin, retourner chez lui le soir sur son bixi ou sur un vélo, peu importe, je me mets au vélo moi aussi.
Oh! Ah! Mais là, il y a un chauffeur et ça coûte très cher en plus, son chauffeur.
Ah. Ben, en tout cas, moi c'est mon engagement. Le jour où je verrai nos élus qui nous polluent le paysage avec leur bixi en enfourcher un, moi j'embarque.
Ou juste prendre l'autobus même, peut-être.
Ou juste même prendre l'autobus, effectivement. Je prendrai l'autobus avec eux également.
C'est bon. On va vous entendre régulièrement dans cette émission aussi, de temps à autre, mais plus régulièrement qu'autrement... à partir du mois d'août, à partir de début septembre. On est très content, en tout cas. On est très content, puis on veut parler d'économie, puis on veut parler de la philosophie de centre-droite. On en parle souvent avec Fred Tétu, Yann Sénéchal. Et ça sera avec grand plaisir que vous allez être accueillis dans l'équipe. Donc, bienvenue. Ce matin, j'aimerais ça qu'on parle un petit peu, puis on va le faire plus tard dans l'émission également avec Yann Sénéchal, mais qu'on ait plus ensemble le cahier de perspectives pour une société solidaire et écologique de Québec solidaire, qui est une collection d'idées farfelues, toutes farfelues les unes que les autres. Qu'est-ce que vous retenez là-dedans, dans ce qu'on pourrait appeler, dans votre texte la semaine passée, vous parliez des illettrés économiques. Ouais. Vous avez entre autres donné un petit coup dans le côté à Barack Obama. Ça, c'est un volet que vous avez développé avec M. Dess dans le midi la semaine passée. Mais dans la collection d'idées ridicules avancées par Québec solidaire, qu'est-ce que vous retenez qui vous indique que ces gens-là ne comprennent rien à l'économie?
Oh là là, qu'est-ce que je retiens? Il y en a quasiment à chaque page.
Oui.
Des preuves comme quoi c'est. Vous avez dit que c'était superflu. Je trouve que le mot est quand même pas mal gentil.
Sincèrement,
en commençant à regarder ça, je me suis même sérieusement demandé, ça doit être une joke. C'est peut-être quelqu'un qui a écrit un document pour les faire mal paraître, parce que je peux pas croire que des gens raisonnables et sensés puissent arriver avec ce genre d'idées.
En fait, non, ça a été sur le site direct de Québec solidaire,
ben oui,
adopté par la commission politique et pas plus tard qu'au 31 octobre 2010.
Ben oui, c'est ça, mais bon, comme quoi le ridicule atteint toutes les sphères. Ça commence par la page 3. Tiens, la page 3 nous dit, bon, ben les PME, on est d'accord à ce que ce soit encore de la propriété privée, mais dès que l'entreprise, elle atteint une grande taille, ben là, il faut que ce soit au moins un partenariat public-privé. Alors déjà, il y a quelque chose de totalement illogique là-dessus. Est-ce que ça veut dire que la personne qui avait sa petite PME à une certaine époque a travaillé très, 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 très fort pour essayer de la faire grossir? Est-ce que arriver à une taille suffisamment importante, est-ce qu'on trouve ça correct que finalement quelqu'un d'autre devienne son partner et dise ben je vais prendre la moitié des profits puis je vais intervenir dans les décisions. Ce genre de mesure là, ce que ça lance comme signal, ça regarde t'as une PME, te force pas trop parce que si tu la fais grossir, elle t'appartiendra plus à toi.
Il nous explique une espèce de système aussi où chaque entreprise aurait une espèce de conseil d'administration avec des gens du gouvernement. Des gens de la ville, des employés, l'employeur. Tu sais, donc, le boss est plus boss. Là,
c'est... Et plus boss, non seulement ça, puis ça devient un système dans lequel c'est impossible de gérer quoi que ce soit parce que on emmène toutes sortes de monde avec des intérêts divergents. Ben, dans un conseil d'administration, le seul intérêt que l'on doit avoir, c'est la pérennité de l'entreprise.
Ben oui.
Et ce qui confirme leur philosophie, c'est l'État a préséance sur tout. Donc, quand t'es rendu quoi, 50, 60 employés, tu serais forcé par une loi à vendre la majorité de tes actions à un prix sûrement déterminé par le gouvernement lui-même. Tu serais forcé de céder les rênes de l'entreprise au gouvernement, c'est...
Voilà. Ben, en fait, leur plan, c'est un plan pour détruire l'entreprise privée, oui, la propriété privée.
Mais ils disent la décroissance.
La décroissance. Mais la décroissance, vous savez, c'est quoi la décroissance? L'être humain a fait des efforts pendant des milliers d'années pour arriver là où on est aujourd'hui. Et là, ce qu'on est en train de nous dire, ben, la décroissance, surtout quand on lit le reste du document avec les initiatives qu'ils proposent.
C'est de pire en pire.
C'est de pire en pire. Ça veut dire que finalement, on va régresser. Au lieu de que nos enfants vivent mieux que nous, nous vivons aujourd'hui, comme ça a été le cas à travers les siècles, les enfants vivaient toujours mieux que leurs parents. Ben non, ça serait le contraire. Nos enfants auraient un niveau de vie inférieur à celui que nous, nous avons, et nos petits-enfants encore inférieurs, et ainsi de suite. Finalement, on fait marche arrière sur toutes les avancées de l'humanité depuis plusieurs siècles.
Mais on produit trop. Dans le document, on le dit, Nathalie, on produit trop. Faut réduire la production. Ah, y a un bout... Qui va bien avec le point que tu avances. À la page 20, le point 2.4, point 2.3.4, lutter contre la surconsommation. Exact. Établir des quotas de production pour empêcher
la
surproduction.
Moi, ça me fait sursauter. Des quotas de production, ça veut donc dire, et ça, c'est une règle économique, c'est automatique, quand on limite la production, on crée des pénuries.
Ben oui.
Quand on crée des pénuries, les prix commencent à augmenter de façon extraordinaire. Il y a du marché noir, il y a toutes sortes de comportements qu'on ne veut pas voir les gens adopter.
Sauf si le gouvernement contrôle tout et qu'il vous donne des coupons. Mais là, on parle de communisme, mettons.
En fait, c'est là où j'en venais. Leur programme, il a un mérite. Moi, je le reconnais quand même un mérite, c'est qu'il ne se cache pas. Ben, en fait, il se cache maintenant parce que le programme n'est plus disponible.
Ils l'ont retiré, oui, d'ailleurs.
Ils l'ont retiré. Ça, je trouve ça dommage parce que, dans le fond, ils ont des convictions.
Ils devraient les défendre.
Ils devraient les défendre. Mais quand le document en tant que tel, il n'y a pas de mystère. C'est un plan pour introduire le communisme, et le communisme pas soft, mais c'est vraiment du communisme hard. Qu'on veut, si un gouvernement de Québec solidaire venait à monter un jour, c'est ça qu'on aurait. Mais il y a tellement de contradictions. Alors oui, d'un côté, on veut limiter la production. D'un autre côté, on veut en même temps diminuer le temps de travail.
Oui. Ah oui, oui, oui. Ah non, mais pas de n'importe quelle manière. Attendez, je vais juste lire précisément. Réduire immédiatement la semaine normale de travail à 35 heures pour la ramener à 32, sans perte de rémunération. Donc, pouf! Tu travailles 3 heures de moins, mais tu gardes le même salaire, par exemple. C'est complètement
ça.
Stupide.
Alors, on produit moins, on travaille moins pour autant d'argent. Le salaire minimum, on le monte à 16 $.
Oui.
On introduit énormément de barrières au licenciement. Les entreprises pourront plus départir de leurs employés, le cas échéant. Mais en même temps, on veut offrir le transport en commun gratuit.
Interdire l'auto, Nathalie. Interdire l'auto pendant 10 ans.
Oui, c'est ça. Interdire l'auto. Et également offrir le transport en commun gratuit. Mais comment est-ce qu'on peut travailler moins, payer nos travailleurs plus cher?
C'est facile, puisqu'il parle aussi d'un salaire maximum.
Oui, alors il y a salaire maximum.
Donc le gouvernement, j'imagine, à quelque part, va ramasser tout l'excès et va payer tout ça avec. Hein? C'est logique.
OK, d'accord. On va dire ça comme ça. Parmi les autres contradictions que... Et ça, vraiment, j'aimerais savoir, Françoise David, nous expliquer comment elle compte, parce que c'est, je pense, à la page 26, faciliter la syndicalisation de travailleurs autonomes. OK. Pour moi, un travailleur autonome, c'est la personne qui travaille soit de chez elle, soit d'un petit bureau, qui travaille généralement seule, peut-être avec un partner, mais je comprends pas comment on peut être à la fois employé syndiqué et patron.
Donc, on veut regrouper tous les prolétaires du Québec, c'est-à-dire la madame qui fait un rapport d'impôt, des rapports d'impôt dans son sous-sol, elle, faut la rentrer dans CSN avec tous les autres qui font qui sont des travailleurs autonomes partout.
Mais à partir du principe où l'État contrôle l'économie, j'imagine que c'est de ce principe-là qu'on dit que tout le monde devrait être syndiqué, puisque l'État va contrôler un peu tout. Donc, c'est peut-être ça l'idée, non? C'est pas...
Ben, le travailleur autonome, à moins qu'il travaille juste pour l'État, qu'il ait un seul et unique client.
Ben, je veux dire, si toutes les compagnies sont en partie au gouvernement, quelque part, il n'y a plus personne qui est patron de lui-même ou de son entreprise.
En fait, moi, je trouve ça très mystérieux. Sincèrement, je ne comprends pas le principe. Mm-hmm. Comment je peux être mon propre boss et me syndiquer contre moi-même?
Ouais, c'est ça.
On fait quoi?
Mais
me mettre en grève, je fais quoi exactement?
C'est l'égalitarisme, la quête de l'égalitarisme. C'est-à-dire, tous les travailleurs autonomes syndiqués, une convention collective unique, tout le monde a le même nombre de semaines de vacances, ça crée pas de jalousie et ça élimine toute forme de compétition. Tout le monde a le même salaire, comprenez-vous? On est tous soumis à la même convention collective.
Bien, justement...
Dans leur tête, eux autres.
Quand on parle d'illettré économique, si tout le monde a la même rémunération, parce que c'est ça le principe du communisme, c'était à chacun selon ses besoins et de chacun selon ses moyens. Donc, tout le monde, effectivement, sur le même pied d'égalité... La prospérité que les économies industrielles ont connue depuis les derniers siècles en particulier, et toutes les avancées finalement de l'être humain, c'est justement parce que chaque individu ressent une incitation. Il se dit, si je suis capable d'atteindre l'objectif X, si je fournis un produit intéressant, si j'offre un service que les gens aiment, je vais améliorer mon sort. Donc, ça crée une motivation pour faire des efforts, pour se lever tôt le matin, pour se creuser les méninges, pour trouver des bonnes idées.
Pour en faire plus.
Une motivation.
Pour en faire plus, effectivement. Mais à partir du moment où tout le monde est sur le même pied d'égalité, on vient de saboter la motivation. Et la motivation, c'est l'élément essentiel. C'est la petite flamme, finalement, qui fait en sorte que on se force, on essaye de faire des choses et puis on essaye de faire fonctionner notre intelligence pour améliorer notre
Le principe de la carotte, un peu, là.
Oui, on peut dire ça, effectivement, de la carotte.
Mais il y a une quête intrinsèque, il y a une quête du bonheur qui est intrinsèque à l'être humain. Pursuit of happiness. L'être humain veut atteindre le bonheur. Et le bonheur, c'est quoi? C'est de se payer un voyage, d'avoir une maison.
Mais même avant ça, de se dépasser lui-même, d'aller en avant.
De se dépasser, le dépassement humain, l'accomplissement.
L'accomplissement, c'est ça, c'est le sentiment d'accomplissement. Celui-là, c'est certain que on va toujours trouver des gens qui vont faire des choses extraordinaires, même bénévolement. Il n'y a aucun doute là-dessus.
Oh oui.
Mais la majorité du temps, la majorité des gens, ils veulent bien être récompensés pour leurs efforts.
OK, j'aimerais ça qu'on écoute Nathalie Manon Massé, qui est une militante, en fait. C'est une troublemaker à 16 heures, là. Elle a été se foutre sur la flottille vers Gaza.
Oui.
Alors que Israël a dit, regardez, nous autres, on n'accueillera pas ce bateau-là. Donc, ils vont faire tout un show avec ça, Québec solidaire, dans quelques jours, assurément. Et qu'est-ce qu'elle proposait, donc, Manon Massé? On écoute ce qu'elle avait à dire.
Alors bonjour, je me présente, je suis Manon Massé.
Est-ce que ça, JC, c'est l'extrait qui nous parle des vacances?
Oui, c'est ça.
Ça parle des vacances?
Oui.
OK, Nathalie, elle parle de sa vision économique du Québec et des vacances qui devraient être données à tout le monde. On écoute.
Saint-Jacques. Alors aujourd'hui, je vais vous entretenir sur les engagements féministes qu'a pris notre parti et aussi sur comment ça se vit à l'intérieur, l'égalité entre les femmes et les hommes. Dans un premier temps, je pense que vous savez peut-être, Québec solidaire a pris 12 engagements qui concernent particulièrement les femmes. Tant au niveau de la politique familiale que de la lutte à pauvreté, on sait que ces engagements-là touchent de façon particulière les femmes. Sans passer sous silence, bien sûr, les 3 semaines de vacances, ce n'est pas rien pour une mère de famille.
Ah, on va l'arrêter là. 3 semaines de vacances, elle dit pas qui va payer ça.
3 semaines pour tout le monde.
3 semaines pour tout le monde. Payer, évidemment.
C'est l'État qui va payer. Je pense que maintenant, je commence à comprendre comment on va faire pour payer tout ça. C'est que dans leur programme, il y a aussi le fait de créer une banque centrale québécoise.
Oui.
J'étais là.
On était rendus là. On était tous rendus là en même temps.
Alors, voilà.
Le point A, le maintien du secteur financier privé ou nationalisation.
C'est surtout le « ou nationalisation », mais il y a aussi le fait de constituer une banque centrale. Et une banque centrale, ça a un pouvoir. Ça a le pouvoir d'imprimer de la monnaie.
Mm-hmm.
Alors, imaginez si on met entre les mains de Québec solidaire une banque centrale avec un pouvoir de créer de la monnaie.
Ils vont l'imprimer de manière effrénée, puis ils vont faire dévaluer la monnaie.
On aurait une super hyperinflation avec des millions de pourcents. Tout à fait logique dans leur raisonnement, parce que si on travaille moins, si on a plus de vacances, si les entreprises, on leur met des quotas de production, si on augmente la fiscalité des entreprises, tout ça, ça fait donc réduire le secteur de la production. On n'aura jamais suffisamment d'argent pour financer tout ça. Mais qu'à cela ne tienne, on part à la planche à billets et puis ben, on va tout financer ça.
On imprime.
On imprime.
Et comment est-ce qu'on peut mettre dans une perspective politique de donner comme proposition de nationaliser les banques? Ils ont écrit ça, sans, pas de farce, c'est pas marqué, c'est une blague en parenthèse.
Quel pays, Nathalie, a fait ça au cours des 15 dernières années?
De nationaliser les banques?
Oui, toutes les banques.
Toutes les banques?
À part Cuba, mais ça se fait longtemps quand même.
Ouais, non, c'est ça. Récemment...
Il n'y en a pas.
Non.
Et je lis, là, pour éliminer complètement l'influence du pouvoir financier, le méchante influence du pouvoir financier privé, une nationalisation complète du système bancaire et des institutions financières est proposée. Comment on peut penser que les banques du monde entier et canadiennes vont rester au Québec alors que Amir débarque en disant « Vous nationalisez toute la gang ».
Voir un exode de capitaux rapide.
Ben oui, ben c'est clair. C'est se faire harakiri d'un point de vue économique. C'est indéfendable. Nationaliser les banques, regardez, demain matin, si on prend vraiment au sérieux cette proposition-là, les banques, les capitaux vont fuir et personne ne voudra se faire nationaliser, c'est clair.
Et ce programme-là ne serait pas un programme de Québec solidaire s'il n'y avait pas la petite touche féministe. Il faut bien sûr, Nathalie, taxer tes cosmétiques. Si je ne sais pas si tu t'es maquillée ce matin, mais il faudrait évidemment taxer le mascara,
la mini-jupe aussi.
Tout ce qui s'appelle féminisation, mais ils nomment cosmétiques, là, spécifiquement à la page 16.
Oui. Et,
qu'est-ce que tu en penses?
Ben, ce que j'en pense, bon, je vais essayer de rester calme. Bon, il y a certaines
mesures... Je ne veux pas que tu parles de Manon Massé, là.
Non, pas du tout. Je ne ferai pas. Il y a certaines mesures, elles sont aberrantes, mais c'est des mesures générales économiques. Passons. Mais là, on rentre vraiment dans la vie privée des individus. Et ça, bon, ça s'inscrit également dans la pensée tout à fait communiste, où on veut tout réguler, jusqu'au fait que certaines femmes choisissent de mettre du rouge à lèvres. Et ça, il me semble que ça devrait être un choix individuel. Celles qui veulent se maquiller, qu'elles puissent le faire. Celles qui ne veulent pas se maquiller, qu'elles ne le fassent pas.
Mais pourquoi ils font ça, Québec solidaire? Je comprends ton point de vue, liberté individuelle, j'y adhère totalement. Mais pourquoi? Ça, c'est la frange. Explique-nous, là, les bébêtes en arrière de Québec solidaire, parce que il y a différentes franges. Il y a la frange écologiste, il y a la frange féminazie ou féministe à l'extrême. Ça, c'est féministe à l'extrême.
Oui, c'est ça. C'est
fou,
égalité entre les hommes et les femmes. Donc, il ne faut pas que la femme utilise son genre, justement, pour...
Pour se rendre plus belle,
mais c'est
pour
ça.
Pour se rendre plus belle, mais que ça ne joue pas non plus... En fait, c'est une façon d'avantager celles qui ne veulent pas faire attention à elles-mêmes. Parce que c'est un nivellement par le bas.
Voilà.
Aujourd'hui, il y en a qui font attention, qui sont plus attrayantes, plus séduisantes, plus charmantes, en tout cas, qui ont peut-être plus de succès. Il y en a d'autres qui font le choix de ne pas faire aucun effort. Moi, je trouve ça c'est correct, chacun fait ce qu'il veut,
ouais.
Mais de façon à ce qu'il n'y ait pas... veut pas, dans la vie économique, dans la vie de tous les jours, quand quelqu'un est bien mis, que ce soit un homme ou une femme, quand quelqu'un est bien mis, quand on sent que la personne fait attention à elle-même, on est plus porté à lui parler, on est plus attiré.
Moi, je pousse ça dans une sphère de compétition. Elles veulent éliminer la compétition entre les femmes et imposer une forme d'égalitarisme esthétique.
Exactement.
C'est du communisme esthétique.
C'est tout le monde habillé en gris, mur à mur, pas de maquillage, pas de coiffure, tout le monde beige et gris, on marche en rang.
Comme en Corée du Nord.
Moi, je vois Big Brother. Là. J'ai des visions apocalyptiques. Quand je lis le programme, j'ai des serrements d'estomac. Là.
Mais savez-vous qu'est-ce que je trouve vraiment amusant dans tout ça? Alors, on a un programme super, super égalitariste, communiste, mais
de
toutes les coutures.
Ouais.
En même temps, si on se promène un petit peu sur le site, ils organisent un camp de formation au mois de septembre, 2, hein? 3 et 4, au cas où ça vous intéresse.
Un camp de lavage de cerveau, là?
Oui, mais ça peut être un camp de formation, mais bon, j'imagine un petit peu la teneur des propos. Mais ce que j'ai trouvé assez amusant, là où l'égalitarisme prend le bord complètement, c'est que pour y participer, il y a des frais d'inscription d'une centaine de dollars.
Non.
Oh!
Mais oui!
Mais je pensais que ces gens-là travaillaient pour le bien commun du peuple.
Donc, les plus riches des écologistes, c'est-à-dire les boomers, seront avantagés.
Ben voilà. Alors, moi j'aime bien quand d'un côté on nous dit, ah oui, transport en commun est gratuit, mais mon camp de formation, par exemple, il faut que tu payes une centaine de dollars. C'est-à-dire que jusqu'à un certain point, ils comprennent les fondements économiques, ça coûte de l'argent, un camp de formation.
Il y aura des jeunes rémunérés, où ira l'argent? Il y aura des jeunes rémunérés là-dedans, il y a des gens qui...
Voilà, il faut donc payer des employés, il faut payer, je suppose qu'ils vont les nourrir, il faut payer, des boissons gazeuses, des chips, peu importe. Donc, ils font leur calcul, ils disent, bon, ben, pour se rentrer dans notre argent, il faudrait que chaque personne débourse 100 dollars. Je trouve ça correct. Mais pourquoi est-ce que ce raisonnement-là, ou l'expérience qu'ils ont avec leur camp de formation, ils ne l'extrapolent pas, puis ils disent, ah ben tiens, les entreprises en général ont également des coûts qu'elles vont devoir couvrir, et si on...
Ben oui. C'est l'ultime hypocrisie de la gauche. C'est l'ultime hypocrisie de la gauche. C'est faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Partageons la richesse, me chauffe une BMW. J'ai rien contre les BMW, parfait. Mais le discours, c'est une chose, les actions, c'est autre chose. Alors, en ce qui me concerne, c'est du déjà-vu all over again, comme on dit en anglais. C'est l'hypocrisie de la gauche. Mais de l'extrême-gauche, en l'occurrence Québec solidaire.
Tout à fait, c'est ça. C'est deux poids, deux mesures. C'est, on dit une chose d'un côté, puis on fait une autre chose de l'autre côté.
Voilà. Hey, merci beaucoup, Nathalie Elgrabli. Donc, on pourrait se reparler à partir de la mi-août. Qu'est-ce que vous préférez? Avez-vous une journée spécifique? Avez-vous reçu votre horaire de prof?
Je devrais pas tarder à l'avoir. On s'envoie des petits courriels?
Oui, absolument.
Bon, ben voilà, c'est ça. Mais de toute façon, on fixera la journée, mais disons à partir de la deuxième de août, ça serait bon.
Tout à fait. Hey, bon été.
Merci, vous aussi.
Merci, salut. Au revoir.
Au revoir.
Nathalie Elgrabli dans More Live, en exclusivité à partir du mois d'août. On appelle-tu à Québec solidaire?